C'est là où il y a un énorme travail d'éducation populaire à faire pour que les gens puissent commencer à comprendre que cette prospérité, ce bien-être auquel on aspire tous, est tout à fait accessible. On a tout sous la main. C'est uniquement au niveau de notre représentation mentale qu'il faut évoluer. On a une espèce de prison mentale qui nous enferme, mais qui fait les affaires, évidemment, de certains petits malins qui sont au-dessus de tout.
Alors justement, Philippe de Ruder, vous avez dénoncé dans un livre les 10 plus gros mensonges de l'économie, ce système qui est complètement fou de la finance. Comment passer de cette monnaie qui vit, de l'avoir à l'être en quelque sorte?
Et alors là, ça devient un travail personnel. C'est-à-dire que j'ai pu personnellement, dans mon propre parcours, vérifier combien mes propres peurs, et en premier les peurs de manquer, pouvait me conduire à poser des actes incohérents et le contraire même de ce qui pourrait servir mes propres intérêts et ceux des autres. C'est la peur viscérale, en premier la peur de mourir, mais aussi la peur de manquer, la peur d'être critiqué, la peur du jugement, etc. Toutes ces peurs, plus ou moins conscientes, parce que pour la majorité elles sont inconscientes, qui nous conduisent à vouloir nous protéger et donc accumuler du capital, avoir des sous, se construire une espèce de rempart extérieur qui nous donne l'illusion de sécurité. Il y a un point là, très important où on se considère comme une victime, on voit toujours le problème à l'extérieur de soi-même, et où il est nécessaire de commencer à prendre responsabilité de sa propre vie et de voir comment tout ce que l'on peut critiquer dans le monde extérieur prend sa source malgré tout dans notre attitude intérieure. Il n'y a pas de recette, c'est chacun dans son propre parcours qui arrive à un certain moment à se poser des questions et à trouver cette ressource intérieure. Dès qu'on commence à toucher cette ressource intérieure, alors on peut changer le monde extérieur. Donc là, il y a un lien direct entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Et ça, il n'y a pas de recette, il n'y a que l'histoire de l'humanité, il n'y a que l'histoire également de, justement, aujourd'hui, de l'interconnexion des gens et pour apprendre ensemble, individuellement, mais ensemble, à évoluer, à changer. Et c'est d'ailleurs ce qui est derrière les monnaies locales. Ce n'est pas uniquement s'amuser à jouer à la marchande avec une autre monnaie que l'euro, c'est véritablement s'offrir une expérience entre citoyens pour apprendre à vivre autrement, se poser la réflexion sur la richesse, apprendre à développer des liens humains autres que ceux de la domination et de la compétition, etc.
Et le rôle de l'éducation, alors, selon vous, à ce cadre-là?
Le rôle de l'éducation devrait commencer tout simplement à apprendre justement aux jeunes à s'ouvrir à la vie, à aborder la vie non plus sous l'angle des jeux de pouvoir justement et de la compétition, mais au contraire être très sensible à la coopération, au construire ensemble, à développer la capacité, alors ça c'est énorme, mais développer la capacité à s'enrichir de la différence de l'autre et non pas de la considérer comme un obstacle. Et donc là, on a un système extrêmement défaillant, à mon avis, puisque aujourd'hui, même l'école, la bonne vieille école, avait comme vocation d'épanouir les enfants dans leur dimension humaine, et pas uniquement de les préparer, comme aujourd'hui, à devenir des acteurs économiques performants pour les entreprises. L'éducation est complètement vidée de son sens, et ça c'est dramatique.
Vous êtes optimiste pour les années qui viennent ?
Je ne suis pas optimiste à court terme, parce que j'ai l'impression que la conscience ou l'inconscient collectif a besoin d'un électrochoc pour bouger. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et on l'entend d'ailleurs régulièrement quand on parle avec les gens, on dit on va dans le mur, sauf que oui on va dans le mur, mais individuellement on a un grand sentiment d'impuissance, qui fait qu'on se résigne et chacun essaie tant bien que mal de se protéger, de se préparer. Et donc j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir faire l'économie d'un électrochoc majeur. On n'a rien compris, on n'a tiré aucune leçon de la première crise de 2007-2008. On ne peut pas imaginer que ça passe tout seul et qu'on s'en sorte. Donc il me semble qu'on va devoir passer par une crise encore bien plus secouante que la première. Et ce sera peut-être cet électrochoc qui permettra enfin de libérer l'imaginaire et de libérer, j'espère, dans la non-violence, le potentiel humain qui est là et qu'on touche, parce qu'il y a énormément d'alternatives, il y a énormément de personnes dans le monde associatif, entre autres, mais également dans les orientations de jeunes qui, après, malgré l'éducation qu'ils ont reçue, et après quelques temps dans l'entreprise, laissent tout parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans. Donc il y a quelque chose qui germe, mais quelque chose qui pousse, on en parle peu, mais c'est là, c'est présent, c'est en train de pousser, et ça me rend optimiste pour le après, mais dans l'immédiat et dans le très court terme, j'ai bien peur qu'il faille passer par des turbulences très fortes.
Merci Philippe Desruders, je renvoie à votre film qui vient de sortir en DVD, Solutions Monétaires.
Il est en libre accès sur Internet, que l'on trouve sur le site de mon association qui s'appelle aises-fr.org.
Et puis bien sûr à tous vos ouvrages, 10 plus gros mensonges de l'économie, Les aventuriers de l'abondance.
Et la dette publique, qui est quand même un monument. C'est un livre qui est très lu parce qu'on découvre que cette dette, on ne devrait pas l'avoir, que c'est un poids que l'on porte et dont on aurait pu complètement se dispenser. C'est un véritable choix politique que de nous avoir mis cette dette sur le dos.
Merci Philippe Desruders.